Le premier crime de Rosic par Rodolphe Bringer. Un soir d'avril, Jean Bizard, un ouvrier agricole, habitant Châteauneuf-du-Rhône, était allé travailler à Donzère et s'était attardé avec des amis. Il revenait à son logis à la nuit noire. Le ciel était brumeux et l'on n'y voyait pas à quatre pas devant soi. Tout à coup, dans l'obscurité, Jean Bizard trébucha contre quelque chose qu'il crut être une pierre. S'étant baissé et ayant tâtonné dans l'ombre, il ramassa un sac fort lourd et plein de pièces. Était-ce de l'argent, des gros sous? Jean n'eut pas la curiosité de s'en assurer tout de suite, car il avait hâte d'être rentré au logis où sa femme devait s'inquiéter de lui. Et il continua sa route, l'esprit tout préoccupé par la trouvaille qu'il venait de faire. « Tu arrives bien tard, » lui dit sa femme quand il fut rentré au logis. « Tiens, voilà ce que j'ai trouvé sur la route, » fit-il en jetant sur la table le sac qui sonna joyeusement. « Qu'est-ce? Nous allons voir. » Et le sac éventré se trouva être plein de pièces de 20 francs qui coulèrent sur la table en un ruissellement d'or. Quelques-unes même roulèrent par terre, et Claudia Bizard, s'étant baissée pour les ramasser, se releva soudain, frémissante. « Tu as les pieds pleins de sang ?» En effet, les lourdes chaussures de travail de Jean Bizard étaient toutes rouges de sang, et elles avaient laissé sur le pavé de la salle de larges empreintes pourprales. Un horrible soupçon traversa l'esprit de la femme, et elle regarda son mari avec un tel regard que celui-ci se sentit pâlir, et il dit « Oh Claudia, peux-tu croire ?» Et la femme se jeta dans les bras de Jean en s'écriant « Pardonne-moi, c'est vrai, j'ai eu une mauvaise pensée. » Mais comme elle avait l'esprit plus subtil que son mari, tout de suite elle vit clair dans l'affaire. « Jean, un homme a été assassiné dans la combe. Ceux qui ont fait le coup ont perdu le sac sur lequel tu as trébuché, et c'est dans son sang que tu as marché. »« C'est bien possible, » répondit Jean, frémissant. « Prends cet or, Jean, et va vite le porter chez monsieur le maire en disant ce que tu sais. »« J'y vais, » répondit Jean. Mais avant de sortir, il changea de chaussures. Monsieur le maire de Châteauneuf-du-Rhône habitait une petite villa sur la route de Viviers, hors du pays, en bordure de la ligne de chemin de fer. Jean sonna, carillonna à la porte du jardin, mais personne ne répondit. Aucune lumière ne brillait dans la maison qui paraissait déserte. La domestique était couchée sans doute et monsieur le maire avait dû aller passer la soirée chez des amis. Jean revint chez lui. « Il n'y a personne chez monsieur le maire. J'y retournerai demain, à la première heure. Il aurait mieux valu le voir ce soir, enfin. » Et elle servit la soupe, car ni l'un ni l'autre n'avait mangé. Mais Jean n'avait pas faim. Toutes ses émotions lui avaient coupé l'appétit et Claudia ne mangea que du bout des lèvres. Ils se couchèrent. Dès l'aube, le lendemain, on frappait à la porte. Claudia vint ouvrir et s'effara en voyant deux gendarmes et trois messieurs vêtus de noir. Dès l'entrée, un des gendarmes vit le sac qui se trouvait encore sur la table et dit « Voilà le magot !» tandis que l'autre tombait sur les souliers ensanglantés et montrait les taches du parquet aux trois messieurs. Cependant, Jean Bizard, éperdu, s'est élevé. Les gendarmes, sans un mot de plus, lui passèrent les menottes et un des messieurs prononça « Au nom de la loi, je vous arrête !» Voici ce qui s'était passé. Un forain, nommé Foisse, qui vendait dans les foires des pièces détachées pour briquet, en revenant de Donzère, avait découvert sur la route le cadavre d'un homme assassiné. Aussitôt, il était accouru à Châteauneuf, avait alerté le maire, et avec lui, en auto, était parti pour Montélimar afin d'avertir la gendarmerie et la justice. Le parquet s'était donc transporté sur le lieu du crime et avait découvert le cadavre qui était celui d'un gros fermier de la Grande Combe, dont la grange était à 500 ou 600 mètres de là. Ce fermier revenait de la foire de Viviers, où il était allé vendre des bœufs. Il portait la trace d'un seul coup de couteau, qui lui avait ouvert la carotide et presque détaché la tête du col, ce qui avait produit sur la route cette énorme mare de sang. Alors on avait remarqué des traces de pieds sanglants se dirigeant vers Châteauneuf. On les avait suivies, et on avait reconnu qu'elles conduisaient à la porte de Jean Bizard. Cependant, Jean Bizard, ayant repris ses esprits, protestait de son innocence. Il raconta comment il avait trébuché contre le sac, comment, venant de Donzère, il avait dû marcher dans la mare de sang. Enfin, il jura qu'il était allé vers 10 heures, sonner à la porte du maire, pour lui dire ce qu'il en était et lui remettre le sac, mais qu'il n'y avait personne à la villa. Mais il ne put donner de preuves de ses dires, et par ailleurs, il était de notoriété publique que Jean Bizard était fort comme un bœuf, violent comme un taureau, et que sans avoir précisément une mauvaise réputation, il possédait de médiocres antécédents. Nul n'ignorait que l'un de ses grands-pères avait été valet à l'auberge de Perbeil, et l'on se souvenait aussi que vers sa 18e année, D'un coup de bêche, il avait estropié l'un de ses camarades dans un moment de vivacité. Aussi fut-il immédiatement conduit à la prison de Montélimar, et malgré ses dénégations, inculpé d'assassinat et déféré à la cour d'assises. Cependant, en lisant le compte-rendu de cette affaire dans le Progrès, un jeune inspecteur de la Sûreté lyonnaise, du nom de Rosic, demeura un instant rêveur, puis il haussa les épaules, et enfin, après une minute de réflexion, il se mit à rire en disant « Voilà par exemple qui serait drôle !» Et tout aussitôt, prenant le premier train, il se dirigea vers Châteauneuf-du-Rhône. Arrivé là, il se fit conduire sur ce vieux chemin où le crime avait été commis. C'était un endroit, à la vérité, fort désert, perdu dans les bois et les rochers, avec seulement, à un demi-kilomètre de là, la grange de la Grande Combe, propriété de la victime. Ayant examiné les lieux, il constata que la mare de sang dans laquelle Jean Buzard avait piétiné se trouvait bien sur la route, un peu à droite, tandis que le gendarme qui l'accompagnait l'assura que le corps avait été trouvé étendu dans le fossé. « Sans doute, expliqua le gendarme, le pauvre homme s'est traîné jusque-là avant de mourir. »« Peu probable, répondit Rosic, car la gorge tranchée, il a dû mourir sur le coup. Alors ?» Et Rosic eut un mouvement d'épaule, puis il se fit conduire à Viviers, où il interrogea quelques personnes, passa par Donzère pour y chercher quelques renseignements précis, et revint à Châteauneuf pour interroger le maire. « À quelle heure, lui demanda-t-il, ce forain est-il venu vous avertir ?»
Il pouvait être 9h30.
Bon, et vous êtes parti immédiatement pour Montélimar, avec lui. Pendant ce temps, votre demeure est restée fermée. Il y avait Rosalie, ma bonne. Pourrais-je la voir? Pour toute réponse, le maire appela Rosalie et une femme de 40 à 45 ans parut. Madame, lui demanda Rosic, pouvez-vous me dire, mais là en toute franchise, si hier, quand votre maître est parti pour Montélimar, vous êtes demeurée dans la villa? Rosalie hésita une seconde, mais impressionnée par le regard de M. Rosic, elle finit par dire « Voilà, j'ai peur la nuit toute seule, alors je suis allée chez les voisins. »«
Parfait, » fit M. Rosic en se frottant les mains.
« Vous êtes bien aimable.
Et vous, monsieur le maire, je vous remercie.
Au fait, puisque vous avez une auto, cela vous dérangerait-il de me conduire à Montélimar ?»«
Mais avec plaisir. »
Un quart d'heure après, M. Rosic frappait à la porte du bureau de M. Bourgeot, juge d'instruction, et lui disait « Je suis inspecteur de la Sûreté lyonnaise et je viens vous voir au sujet de l'assassinat de la Grande Combe. » Mais M. Bourgeot eut un sourire et « Vieille affaire, quoiqu'elle ne date que d'hier, nous tenons le coupable.
Hein?
Est-ce que ce Jean Bizarre aurait fait des aveux?
Non, il se défend comme un beau diable, mais toutes les preuves sont contre lui.
Très bien, » répliqua M. Rosic. « En ce cas, voulez-vous signer un mandat d'arrêt contre le forain Foisse et le faire rechercher tout de suite ?» Le juge regarda l'inspecteur, puis « Vous voulez rire ?»«
Pas le moins du monde,
car ce ne peut être que lui qui a assassiné le fermier de la Grande Combe. » Et sans tenir compte de l'effarement de M. Bourgeot, M. Rosic expliqua « Je ne connais pas ce Foisse et n'ai sur lui le moindre renseignement. Mais je sais qu'il était avant-hier à la foire de Viviers. Il y a rencontré le fermier de la Grande Combe, a constaté qu'il avait la bourse pleine, venant de vendre ses bœufs, et a décidé de l'assassiner. Pour ce faire, il l'a suivi, car il n'est point allé à Donzère, comme il l'a dit, j'en ai la preuve. Pour aller de Viviers à Donzère, il faut passer au passage à niveau du robinet, endroit dangereux où le garde exerce une grande surveillance. Or, ce garde, qui connaît Foisse, ne l'a pas vu passer. Donc Foisse a menti en prétendant que c'est en revenant de Donzère qu'il a trouvé le cadavre du fermier. Ce Foisse a suivi le fermier et arrivé à l'endroit voulu, fort désert et qu'il connaissait bien, car il roule le pays depuis quelque temps, il lui a sauté dessus. L'autre s'est défendu et instinctivement, vous m'entendez, il a jeté loin de lui son sac aux écus, comprenant bien que c'est à cela qu'on en voulait. Foisse cependant a pu terrasser notre homme et alors il lui a tranché la gorge. Le fermier est tombé roide mort au milieu de la route. Vous me comprenez, au milieu de la route. Et cependant, c'est dans le fossé que l'on a trouvé son cadavre. Parce que Foisse l'a traîné là, obéissant à je ne sais quelle pensée, et l'a fouillé. Rien, et pour cause. Il était 9h. À ce moment, monsieur le juge, Jean Bizarre était à Donzère avec des amis et disait « Fichtre, 9h, et la femme qui m'attend. » Et il est parti. Il faisait une nuit extrêmement noire, et Jean Bizarre ne pouvait voir le cadavre qui se trouvait dans le fossé.
mais il a heurté contre le sac que le fermier avait jeté loin de lui et qui était tombé sur la route. À ce moment, Jean venait de piétiner dans la mare de sang.
« Vous avez suivi ses traces. Il vous a dit qu'il était allé faire part de sa découverte à monsieur le maire, et c'est vrai.
Mais la maison était vide. »
Monsieur le maire venait de partir pour Montélimar avec l'assassin, et Rosalie, la bonne, qui est très peureuse, était allée chez des voisins attendre le retour de son maître.
Veuillez donc noter, en tenant compte de cet horaire, que Jean Mizard n'a pu passer par la Grande Combe, que, une grosse demi-heure après l'assassinat, et que d'autre part, si comme il le prétend, Foix s'était revenu de Donzère par la même route, il n'eût pu, à cause de l'obscurité, voir le cadavre qui se trouvait non dans la mare de sang, mais dans le fossé. Car il n'avait pas de lanterne, sans cela il eût trouvé le sac. Il ne peut donc y avoir erreur, et c'est bien le Foix qui est l'assassin. Ayant tué son homme, et n'ayant pas trouvé sur lui le sac au louis d'or, Foix a commencé à trembler, et à se rendre compte de l'énormité inutile de son crime. Oui, il a eu peur, mais c'est un garçon de ressources, et tout de suite il s'est dit « Pour que l'on ne me soupçonne pas, il n'y a qu'à me faire le dénonciateur de l'affaire. » Et incontinent, il est venu à Châteauneuf donner l'alarme. Ce n'était pas bête. La preuve en est que tout le monde a donné dans le panneau. Ainsi parla M. Rosic. M. Bourgeot, rougissant, songea, puis tira un imprimé, le remplit de sa fine écriture et sonna un agent. Une heure après, dans un estaminet de Montélimar, Foix s'était arrêté, conduit devant M. Bourgeot et M. Rosic, à qui, après quelques hésitations et se sentant perdu, il faisait des aveux complets. « Mais, demanda M. Bourgeot à M. Rosic, qui se frottait les mains, jouissant modestement de son triomphe, « comment l'idée vous est-elle venue de l'innocence de Jean Bizard ?» Et M. Rosic répondit, « Quand ce matin j'ai lu les détails de l'affaire dans le Progrès, la culpabilité de Jean Bizard m'a paru si évidente que je me suis dit immédiatement que ce ne pouvait être lui l'assassin. Je suis donc venu enquêter, supposant que le seul coupable devait être ce forain. Parti sur cette piste, il m'a suffi d'aller à Viviers et de constater que Foix c'était bien la foire, que d'autre part il n'était pas venu à Donzère. Joignez à cela la position du cadavre et l'absence de Rosalie dans la villa de monsieur le maire. Il ne m'en a pas fallu davantage pour asseoir ma conviction. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. » Telle fut la première affaire de M. Rosic, qui faisait présager que ce détective ferait assurément son chemin dans la carrière. Ainsi s'achève le premier crime de M. Rosic par Rodolphe Bringer.